Eddy Le Belair, bonjour.
Bonjour.
Lutte ouvrière, donc, le camp des travailleurs. En une phrase, quelle est votre priorité pour Saint-Nazaire ?
En une phrase, pour introduire, ce que je peux dire, c'est que les travailleurs de cette ville, et j'en fais partie, produisent énormément de richesses. Mais c'est des richesses qui ne profitent pas aux travailleurs de cette ville, c'est des richesses qui ne profitent pas à la population, qui ne profitent pas à la collectivité, c'est des richesses qui profitent d'abord et avant tout aux actionnaires des grandes entreprises qui sont dans cette ville, et c'est le fonctionnement normal de cette société. Et moi et les membres de cette liste, c'est un fonctionnement qu'on combat.
Première question à tous les candidats, en 2032, à la fin de votre mandat, si vous êtes élu, à quoi ressemblera Saint-Nazaire ? Quelle sera votre marque la plus visible dans la ville ?
Oui, ben là, il y a des promesses et du rêve, mais moi, je vais parler de la trajectoire sur laquelle on se trouve actuellement. Et si on suit cette trajectoire, ben, dans les années qui viennent, ce sera l'érosion du pouvoir d'achat des classes populaires qui va continuer. Ce sera l'accès aux soins, au logement, à l'énergie qui va devenir plus dur. Et puis moi, je voudrais parler de quelque chose de particulier, c'est la guerre qui se prépare. La guerre dont on nous parle, dont nous parlent les chefs d'État, dont nous parlent les chefs d'État-major, on nous dit qu'il faut se préparer à sacrifier nos enfants pour cette guerre. Ici à Saint-Nazaire, ça se traduit comment ? Ça se traduit avec la construction du porte-avions. Vous êtes deux à vous en être félicités. Tous les partis qui vous soutiennent sont d'accord sur la politique d'armement de la France au nom de la souveraineté. Bah, moi, je dis que ça, c'est un piège mortel pour le monde du travail, pour les travailleurs. Parce que le moteur de ces guerres, guerres d'ailleurs qui sont les mêmes moteurs que ceux du siècle passé, guerre qui a quand même détruit cette ville au siècle dernier. Bon, les moteurs de cette guerre sont toujours les mêmes. C'est la concurrence entre capitalistes qui pousse à l'accentuation des tensions entre les États et qui crée la guerre. Bon, voilà, on peut regarder actuellement ce qui se passe en Ukraine pour voir. On nous a dit au début de la guerre que c'était une guerre pour le droit des peuples, le droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même. Qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, les oligarques russes, ukrainiens comptent leurs sous. Les capitalistes de l'armement européen, américain font de même. Et puis aujourd'hui, les États-Unis sont en train de regarder ce qu'ils vont pouvoir s'approprier du sol et du sous-sol ukrainien. Voilà pour ce qu'il en est du droit du peuple ukrainien. Et pendant ce temps-là, c'est les peuples russes et ukrainiens qui le payent avec 500 000 morts. Voilà ce qui est en train de nous préparer cette société. Eh bien, c'est ce qu'elle nous prépare, mais moi je crois qu'on a une alternative. Et je prendrai que pour exemple ce qui se passe à Minneapolis. Vous voyez, la population, elle a eu un grave problème avec la police de Trump qui est venue terroriser la population. Eh bien, ce n'est pas le maire démocrate de Minneapolis qui a trouvé la solution au problème. C'est la population. Elle s'est mobilisée, elle s'est organisée, elle a trouvé les moyens, y compris avec des manifestations gigantesques au prix de deux morts, mais elle a trouvé les moyens de faire reculer Trump. Eh bien, moi, je crois bien plus à ça qu'aux promesses des politiciens.
Beaucoup, enfin quelques-uns d'entre vous ont parlé de la nécessité de loger, du logement, de l'accessibilité du logement, de la santé, des services publics. J'aimerais vous questionner justement sur comment est-ce que vous comptez concrètement le mettre en œuvre. Eddy Le Belair, on reviendra sur cette question économique autour de la guerre, autour de l'industrie, etc. On y reviendra. Mais j'aimerais connaître un petit peu vos points de financement pour ces projets.
Je vais néanmoins commencer par réagir à ce qu'a dit le représentant du Rassemblement national, parce que je note que par le passé, Rassemblement national était hostile à l'emploi des travailleurs détachés au chantier naval. Aujourd'hui, ça a changé, mais il est pour parquer les travailleurs détachés dans des conteneurs, comme quoi le Rassemblement national sait avoir les chines relativement souples quand il s'agit de répondre aux demandes des gros patrons, des gros patrons de la ville. Voilà. Effectivement, il y a un problème de logement, et il y a en particulier un problème de logement sur Saint-Nazaire pour les loyers bon marché, c'est-à-dire pour les salariés qui ont des revenus modestes, et ce problème, il s'accroît. Et il s'accroît, d'ailleurs ça se voit, la population de la ville est en train de changer depuis 10 ans, la proportion des employés, des ouvriers habitant dans la ville est passée en un peu plus de 10 ans de presque 60% à 40%, parce que les loyers augmentent, que ce soit les loyers, le prix à l'achat des logements, et puis surtout parce qu'on manque cruellement de logements sociaux. Monsieur Sanzin, vous parlez d'un chiffre de 30%. Moi, quand je regarde les chiffres de l'INSEE, logement HLM, alors les derniers chiffres dont je dispose, c'est de 2022, on parle de 21%. En tous les cas, clairement, c'est les chiffres de l'INSEE, vous les regarderez. Et clairement, on manque de logements bon marché à Saint-Nazaire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le maire qui va régler ce problème-là. Le problème, il vient majoritairement du fait que l'État s'est largement désengagé de la construction massive de logements sociaux. Et ce pourquoi, ben, forcément, hein, quand le gouvernement, hein, et je vais parler de Macron, vous êtes un certain nombre à avoir appelé à voter pour lui, quand Macron vole au secours des gros industriels, des plus grosses fortunes du pays, quand il fait 270 milliards de cadeaux d'aides fiscales aux grosses entreprises, ben, effectivement, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour construire des logements sociaux.
Alors une question, première question à tous, hein, à Saint-Nazaire, une famille sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La pression sur le logement s'intensifie avec notamment les 15 000 emplois attendus autour du futur porte-avions. Alors que lors du dernier conseil municipal, l'opposition a dénoncé la situation des familles à la rue, et on en parle à l'instant, et appelé la ville à agir concrètement. Alors vous avez parlé des mesures que vous vouliez mettre en place, mais j'aimerais que vous répondiez plus précisément, s'il vous plaît, à Adeline Lonen concernant justement... les choix municipaux qui préviendraient les situations de rue, pouvoir faire aboutir les projets municipaux, et puis parler des habitats vacants.
Bah oui, je suis extrêmement choqué de constater qu'il y a des gens dans cette ville qui n'ont pas un toit à se mettre sur la tête parce que c'est un droit élémentaire. C'est plus choquant quand c'est des enfants, mais c'est choquant tout court pour quelques personnes que ce soit. Alors c'est vrai qu'il y a deux problèmes. Il y a à la fois le problème de gens qui ont des revenus, qui ont un salaire et qui ne trouvent pas à se loger, ou pour qui c'est extrêmement difficile de se loger ici. Hein. C'est vrai qu'il y a de la spéculation autour des loyers. Moi, je connais des travailleurs détachés, effectivement, hein, qui se partagent un logement, parfois à trois chambres, à 1500 euros. Ça existe ici, des situations comme ça. Alors avec de tels montants de loyer, hein, vous imaginez bien... Hein, la difficulté pour quelqu'un qui arrive en ville aujourd'hui, hein, avec un salaire modeste et qui doit trouver un logement. Effectivement, moi je connais des travailleurs, hein, qui doivent passer des semaines dans leur voiture avant de réussir à trouver un logement. Et bien souvent, ça se termine avec un logement soit de mauvaise qualité, soit très cher, soit très loin. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a aussi l'hébergement d'urgence pour des gens qui n'ont aucun revenu. Pour les sans-papiers aussi. Et là, moi, je voudrais dire aussi que c'est l'État, c'est des politiques aussi qui transforment des gens, qui fuient la guerre, la misère, etc., hein, pour qui, pour moi, en tous les cas, hein, ils devraient avoir le droit de circuler, hein, le droit de s'installer là où ils souhaitent. Et ben aujourd'hui, en leur refusant tous les droits, en leur refusant les papiers, effectivement, on leur fait la vie impossible, y compris en leur privant de la possibilité de se loger. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est largement dans les possibilités de la municipalité, hein, d'occuper des logements vacants pour loger tout le monde, sans exception. Hein, moi, je citerai quand même un exemple. Il y avait des associations qui occupaient une maison d'hébergement solidaire, hein, qui a été évacuée par les forces de l'ordre. Là, pour faire ça, on sait faire appel aux forces de l'ordre, hein, mais pour mettre au service de gens qui n'ont pas de toit, hein, de leur mettre à disposition un logement, il n'y a aucun moyen qui est mis. Ben, moi, je suis totalement opposé à ça.
Comment est-ce que vous comptez justement renforcer concrètement le soutien aux associations en première ligne face à la précarité ?
Bien, le tissu associatif qui est important à Saint-Nazaire, il n'est pas né de rien. Saint-Nazaire, c'est une ville ouvrière qui a des traditions. Des traditions y compris militantes, des salariés, des travailleurs qui ont eu l'habitude dans le passé d'intervenir directement, de ne pas faire confiance aux gros, aux institutions, aux notables pour changer les choses. Et il en va de même pour les associations. C'est cet état d'esprit-là qu'a créé les associations, c'est-à-dire cette envie, ce besoin d'intervenir sur tous les pans de la vie sociale, hein, pour essayer de la changer, y compris envers et contre les institutions, envers et contre les puissants qui font les lois et qui font la société telle qu'on la vit. Alors aujourd'hui, moi je participe à ça en étant un militant dans le monde du travail, un militant qui dit, hein, autour de moi, à mes collègues, il faut qu'on s'occupe de la politique, il faut qu'on s'occupe de la vie dans cette société, il faut qu'on donne notre avis, on a des choses à défendre. Aujourd'hui, les gens qui décident, ils décident à notre place et contre nous, sur tous les sujets, sur la solidarité, sur le logement, sur la manière, sur la santé, sur tous ces sujets-là. C'est les plus riches qui prennent les décisions. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça, militer justement, enfin, ce tissu associatif, militer pour le monde associatif, ben, c'est militer pour que, hein, les gens ordinaires, hein, les gens du monde du travail, ils interviennent directement sur les choix importants qui sont faits dans cette société.
qu'allez-vous mettre en place dès la première année pour faciliter justement la vie des entreprises locales et favoriser leur visibilité à Saint-Nazaire et pas que les commerces d'ailleurs? Comment renforcer le dynamisme et travailler avec la collectivité au sein des quartiers?
Moi, je voudrais dire ce qui me... Parce que vous avez discuté aussi d'un climat économique qui est dur. Je veux dire, les difficultés que peuvent rencontrer les commerçants en centre-ville, elles sont aussi beaucoup liées à la faiblesse du pouvoir d'achat de la population, qui est une population en majorité de travailleurs, de salariés avec des revenus modestes. Et moi, ça, j'en parlais dans mon introduction parce que c'est quelque chose qui me choque énormément. Alors là, je vais peut-être recouper avec le sujet d'après, mais c'est quand même ce qui marque cette ville. On fabrique énormément de richesses. Moi, je travaille dans une entreprise où on fabrique des paquebots, des bateaux de luxe, des bateaux militaires. L'entreprise gagne de l'argent avec ça, beaucoup d'argent, et les armateurs en gagnent aussi beaucoup. Cette classe sociale-là qui gagne de l'argent, elle se l'approprie quasiment intégralement. Et aujourd'hui, force est de constater que, y compris dans une ville, donc on pourrait dire qu'elle est prospère, la population n'est pas prospère. Alors moi, je ne compte pas effectivement sur le maire pour changer cet état de fait. Moi, je pense que c'est les travailleurs qui peuvent changer ça. On a une histoire dans cette ville. Je vais revenir, c'est un peu loin en arrière, mais en 1955, il y a les travailleurs dans cette ville qui sont intervenus massivement, qui ont fait une grève dure, longue, et qui ont gagné 20% d'augmentation de salaire à l'époque. Et c'est une grève qui a fait tache d'huile. C'est une grève, et c'est même une grève qui a compté dans le changement et dans l'évolution de la condition ouvrière. Ben moi, c'est sur des combats tels que ceux-là que je compte pour changer vraiment les choses, c'est-à-dire les conditions de vie du monde du travail, y compris les vôtres, qui sont liées aux revenus qu'on tire de notre travail.
Maintenant, quelle est votre vision pour l'économie nazairienne dans 6 ans? Et autrement dit, sur quel secteur et quels atouts est-ce que vous souhaitez miser, monsieur Le Belair?
Ben moi, c'est de la colère que je vais exprimer. Parce que depuis le début du débat, on parle des problèmes de pouvoir d'achat de la population, difficulté d'accès au logement. On n'a pas parlé de la santé, mais on pourrait parler de l'état complètement déplorable des urgences dans cette ville. Et puis de l'autre côté, effectivement, on a une économie qui est florissante, avec des carnets de commandes qui sont pleins. Et non seulement les carnets de commandes sont pleins, les profits sont là, mais on leur vient en aide. On fabrique un paquebot à voile d'hyperluxe. À 6 000 euros la nuit, tarif minimum, parce qu'il y a des suites de plus de 1 000 mètres carrés. Et le ministre du Transport arrive avec un chèque de 22 millions d'euros pour soutenir la construction de ce bateau. On vient d'inaugurer, les chantiers viennent d'inaugurer une usine pour fabriquer les voiles à Lanester. J'apprends que cette usine est aussi financée avec de l'argent public. Le paquebot à voile dont je parle, il appartient au groupe Accor et il appartient à Bernard Arnault. Première fortune de ce pays. Ces gens sont gavés d'argent public. Et ils font quoi? Ils sont totalement irresponsables vis-à-vis de ce qui arrive à la population, vis-à-vis de ce qui nous arrive. Nos problèmes de logement, ils s'en fichent. Nos problèmes de santé, ils s'en fichent. Ils se gavent. Les 53 milliardaires les plus riches de ce pays ont vu leur fortune doubler, plus de 120 milliards en moins de 10 ans. Voilà où va l'argent, voilà où va la richesse qui est issue de notre travail. Alors on peut discuter de tout un tas de nos difficultés, etc. Mais nos difficultés, elles viennent de là. Ces gens, ils sont irresponsables. Moi, je représente le camp des travailleurs et moi, ce que je veux, c'est les foutre dehors parce qu'ils sont irresponsables. Les travailleurs font tout fonctionner. Eh bien, c'est à nous de diriger cette société. Voilà, c'est ça que je défends pendant cette campagne.
Saint-Nazaire concentre en Loire-Atlantique un nombre record d'installations classées pour la protection de l'environnement. Mais comment est-ce que vous allez, avec ce qu'on vient d'entendre, arbitrer entre développement économique et protection de l'environnement? Quelle est votre priorité pour améliorer concrètement le cadre de vie et la santé des Nazériens?
J'ai envie de répondre sur la pollution industrielle, bien sûr. Celle qu'on subit, d'abord en premier lieu, quand on est au travail. On vit ici dans une ville qui a déjà connu un scandale sanitaire massif, le scandale de l'amiante. Et puis, preuve en est que le m'en-foutisme de certains patrons peut continuer à faire des dégâts. Il y a quelques semaines, on s'est aperçu que tous les ponts du chantier naval étaient encore équipés de freins avec des amiantes, remplacés par des plaquettes de freins qui étaient stockées, etc. Bon, voilà. C'est une chose. Bon, il y a pas que ça. Il y a des chiffres qui sont dramatiques. Les chiffres du taux de mortalité des hommes de moins de 65 ans qui témoignent très vraisemblablement d'une pollution industrielle, puisque c'est ce qui caractérise ce secteur géographique. D'autant que c'est des maladies qui touchent principalement des hommes, qui sont les plus employés dans cette industrie-là. Sauf que, comme pour le reste, il y a le sacro-saint droit des patrons de faire ce qu'ils veulent dans les entreprises. C'est d'ailleurs en général eux-mêmes qui ont en charge de vérifier, de mesurer quelles sont les pollutions sur le site. Et je peux vous dire qu'avant de connaître la réalité des polluants auxquels on est exposé, il faut drôlement leur tordre le bras. Et c'est là qu'intervient à raison les organisations de travailleurs, les syndicats qui doivent se battre avec leurs petits moyens, effectivement, parce que c'est compliqué de découvrir réellement quels sont les polluants. Il faut des moyens, y compris financiers, il faut faire des analyses, il faut avoir le droit d'aller faire des prélèvements. Rien qu'au sujet de l'amiante, ce dont je viens de vous parler là, les freins. Aujourd'hui, la direction des chantiers refuse le droit aux organisations syndicales d'aller faire des prélèvements sur les poutres, etc. Voilà, c'est juste un exemple. Mais c'est pour vous montrer à quel point les industriels, quand ils n'ont pas de produit de remplacement ou quand ils considèrent que ça va leur coûter trop cher de faire les travaux, etc., ou les aménagements pour permettre de moins polluer, ils ne vont pas les faire. Et il n'y a personne pour les contraindre. En tous les cas, au niveau des institutions, il n'y a personne. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'à chaque coup qu'il y a une pollution du côté de Total, les nuages sont encore dans le ciel. On a déjà le droit quasiment au communiqué de la sous-préfecture pour dire que c'est sans danger, c'est sous contrôle. C'est quand même fou. Yara a pu polluer pendant des décennies, dépasser tous les seuils. La police n'est jamais intervenue. J'ai jamais vu le corps de l'État intervenir. Si, la police est intervenue une fois. Au moment des gilets jaunes, pour empêcher une manifestation des gilets jaunes qui protestaient contre la pollution et le dépassement des normes de Yara. Voilà ce qu'il a fait. Bon, là, effectivement, moi aussi, c'est comme pour le reste. Moi, je sais que les seuls qui sont capables de faire la police, ce sont les salariés, les travailleurs, les gens qui peuvent être les premiers au courant de ce qui se passe dans leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont bâillonnés par leur employeur, qui y compris peut leur empêcher de divulguer ou leur porter préjudice s'ils font connaître un certain nombre d'informations au sujet de pollution, etc. Mais moi, je compte sur la force des travailleurs pour tordre le bras de ces pollueurs. Et il y en a ici.
Pour un mot de la fin, une dernière occasion de vous adresser directement aux Nazériens et Nazériennes.
Je vais aller vite. Alors, avec notre liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, nous portons une idée. Pour changer leur sort, les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. C'est vrai dans leur entreprise, c'est vrai à l'échelle municipale, nationale ou internationale. Dans cette société où c'est la toute petite minorité des très riches qui décide de tout, tout est fait pour que nous, les travailleurs, nous soyons invisibles. Dans les entreprises, il faut obéir, travailler et se taire, comme le réclame M. Chéreau. Quand on veut se défendre, on nous dit qu'il y a des syndicats pour cela. Et en politique, il faudra laisser faire les politiciens s'occuper de tout. Mais ils s'occupent de quoi, en réalité, à part vendre des illusions et des promesses qu'ils ne tiennent pas? Nous nous sommes convaincus qu'aucun des problèmes importants ne sera résolu dans cette société tant qu'elle sera organisée autour de la recherche exclusive du profit. Une minorité de travailleurs pense cela aujourd'hui, refuse la marche à la guerre, refuse les divisions que l'on veut créer entre nous en fonction de nos origines. Tout cela, ils pourront le dire en votant pour Lutte ouvrière.